Alors, eh bien, j'aimerais prier pour commencer. Seigneur éternel, merci de ces moments. Et Père, nous avons besoin de toi encore. Seigneur, nous sommes des pécheurs et des mendiants devant toi. Seigneur, nous avons faim, soif de ta personne. Nous avons besoin de toi pour vivre. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Seigneur, nous savons que nous avons besoin de ta parole et de la vérité pour vivre. Seigneur, parce que par elle, tu nous libères, tu nous affranchis, tu nous élèves, tu nous donnes la paix, la joie, l'espérance, tu transformes nos vies. Seigneur, bénis-nous, s'il te plaît. Viens-moi en aide, bénis encore ces moments, que tu sois présent dans nos cœurs, dans cette salle, et que tu nous bénisses par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais qu'on prenne ensemble 1 Jean, chapitre 1, et on va lire les versets 5 à 7. 1 Jean, chapitre 1, et versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors Jean nous fait part d'une nouvelle. Il dit, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. On sait bien ce que c'est que la lumière. Hein, on sort dehors, on est éclairé par la lumière du jour. On sait ce que c'est aussi que les ténèbres. Mais la lumière physique et les ténèbres physiques font référence à des vérités spirituelles. Bien sûr, Dieu est en train de nous enseigner quelque chose derrière. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible que l'homme n'a ni vue ni connue. Il est dans une lumière inaccessible. Donc c'est à la fois une lumière qui est dans une autre dimension, puisqu'il est dans l'au-delà, mais c'est aussi une lumière qui est impossible pour l'homme de supporter. Je ne sais pas si vous avez probablement déjà vu des ouvriers qui travaillent dans la rue et qui font de la soudure à l'arc. Quand vous êtes suffisamment loin, ça va, c'est supportable de regarder. Mais quand vous faites de la soudure à l'arc, eh ben, je vous garantis, il ne faut pas regarder. Hein. C'est pour ça qu'ils ont un masque noir avec une vitre fumée, mais noire de chez noir, hein, pour leur permettre de regarder ce qu'ils sont en train de faire dans leur travail. Pourquoi ? Parce que la soudure à l'arc, c'est un arc électrique qui produit une lumière si intense, si forte, si puissante, que si vous la regardez, eh ben ça peut vous brûler la rétine. Et enfant, j'avais quelqu'un à la maison qui faisait de la soudure à l'arc, et j'ai déjà regardé. Hein, et ça chauffe l'œil, et puis on voit plus clair. Hein, on voit plus clair. Alors quelqu'un qui regarde longtemps, eh ben c'est terminé, il perd la vue. Il perd la vue. Et c'est la même chose pour la personne de Dieu. C'est une lumière si forte, si intense, on ne peut pas le supporter. On ne peut pas la regarder, c'est impossible, c'est trop pénétrant, trop puissant pour qu'on puisse le supporter, nous qui sommes des pécheurs. Alors à défaut de pouvoir le voir directement, eh bien Dieu a envoyé Jésus-Christ qui a pris une forme humaine, une forme comme nous. Donc Dieu le Fils, la parole dit qu'il s'est dépouillé, de sa morphée, son apparence divine, il s'est dépouillé de sa gloire, et puis il a pris un corps d'homme qui est venu atténuer finalement cet éclat glorieux, bien sûr à l'intérieur, Christ était le même, mais l'apparence extérieure a été atténuée, en sorte que nous avons pu le voir, nous avons pu voir Dieu. Vous connaissez ce passage, Ésaïe 53, tout à l'heure Céline nous lisait finalement Ésaïe 53, où il est dit qu'il est venu sans éclat. Voilà, sans éclat, on pouvait le regarder. Et on peut dire que son éclat naturel, divin, eh bien, a été atténué dans sa chair humaine. mais le Fils n'en est pas moins l'image du Dieu invisible. Et comme regarder le Père directement, c'était impossible, alors Dieu nous a permis de voir le Père au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ est un peu comme cette vitre fumée qui nous permet de voir la personne de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dieu s'est approché de nous par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Dieu est lumière. Donc les ténèbres n'existent pas en lui. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a que lumière. Et les ténèbres, c'est là où l'on cache, c'est là où on se cache, là où on ne voit pas, où le mal s'exprime. C'est dans les ténèbres que le mal, eh bien, peut s'exprimer librement, qui se manifeste. Les ténèbres sont liées à la faute, liées au péché. Lorsque Adam et Ève ont chuté, hop, ils sont allés se cacher sous les arbres du jardin, dans l'ombre, dans les ténèbres. La Bible dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et le péché pousse l'homme à aller se mettre dans les ténèbres et se cacher. Mais en Dieu, point de ténèbres, pas de ténèbres. Ça veut dire point de péché, point de mal, rien de mauvais, même pas la racine, même pas l'embryon de quelque chose de mal, rien. Pureté, sainteté, propreté, éclat, lumière. La personne de Dieu. Et la chose merveilleuse, c'est que ce Dieu-là veut avoir une communion avec nous. Il s'approche de nous, il veut avoir une communion avec toi, avec moi, avec nous. Ça, c'est quelque chose, ça paraît complètement fou quand on se connaît soi-même. Quand on sait de quoi nous sommes capables, on se dit, Seigneur, comment toi, qui es si pur, si parfait, eh bien, tu veux t'approcher de moi et avoir une communion avec moi. Et pourtant, c'est ce qu'il a voulu. Mais, au verset 6 de 1 Jean, nous lisons, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Et on a une vérité importante ici, c'est pour être en communion avec Dieu, il faut marcher dans la lumière. Il faut marcher comme en plein jour, marcher sans rien cacher, sans dissimuler. On pourrait dire aussi marcher en étant ce que nous sommes réellement, dans la vérité en fait, sans feinte. Marcher dans la transparence, marcher dans la vérité. Et ce verset nous révèle aussi quelque chose au sujet de l'enfant de Dieu. L'apôtre Jean dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si nous disons, ça signifie que l'on peut dire aux autres, où on peut laisser penser aux autres que nous sommes en communion avec lui, alors que ce n'est pas le cas. C'est une réalité. En fait, Jean nous parle d'une forme d'hypocrisie ici. On laisse paraître, mais ce n'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Dans le contexte de l'épître de Jean, donc cette première épître de Jean, Jean il dénonce les faux prophètes, les faux docteurs. Et bien sûr, ça prend du sens. Il laissait paraître qu'eux, mais ce n'était pas du tout le cas. Mais est-ce que ce n'est pas là aussi le propre de l'homme, d'une manière générale, de cacher ce qu'il est en réalité, ce qu'il vit en réalité? Et donc, ça nous concerne aussi, nous chrétiens, parfois. On glisse dans une forme d'hypocrisie. Pour nous chrétiens, on peut se laisser paraître que tout va bien, que nous sommes en communion avec le Seigneur, et puis en réalité, nous ne le sommes pas. Et la Bible, elle est claire. Soit on marche dans la lumière, soit on marche dans les ténèbres. C'est soit l'un, soit l'autre. Et il n'y a pas de milieu. Et c'est vrai qu'on oscille parfois. On marche dans les ténèbres, on revient dans la lumière. Et puis on repart dans les ténèbres, et on revient dans la lumière. On oscille, et on peut osciller comme ça même dans une même journée. Dans une même journée. Aussi parfois, la frontière entre ténèbres et lumière, elle peut ne plus devenir très très claire pour nous. En ce sens qu'il est possible de ne même pas se rendre compte qu'on a quitté la lumière et qu'on commence à être dans les ténèbres. Des fois, on glisse, hein. On glisse dans l'ombre. On était en plein soleil. Voilà, le soleil nous réchauffe, la lumière, eh bien, nous éclaire. Puis on va simplement se mettre, un endroit un peu abrité. Et puis on est à l'ombre. On n'est plus dans la pleine lumière. On n'est pas dans les ténèbres absolues. Mais on est déjà dans l'ombre. On est déjà caché, en fait, finalement, de la lumière. Et la communion, eh bien, paf, elle se rompt, elle se brise. En fait, ça dépend de la sensibilité d'une personne et de sa perception de Dieu et de la profondeur, en fait, de sa relation avec lui. C'est très facile de glisser. Il suffit qu'on ne confesse pas quelque chose, ne demande pas pardon pour quelque chose où le Seigneur dit « Ah, ça ne va pas. Ça ne va pas. » Et puis une deuxième chose, et puis une troisième, et puis... Et ce n'est pas forcément des gros péchés. C'est des petites désobéissances. Une petite désobéissance, petite chose qui ne va pas, et puis hop, on devient moins sensible. C'est, par exemple, une parole qui n'est pas gentille à l'égard de quelqu'un. Puis hop, on passe au-dessus, on se dit, oh, c'est pas grave. Ou bien c'est un peu d'amertume, c'est du ressentiment envers une personne, ou un refus, simplement un refus de faire ce que Dieu nous demande. On sait ce qu'on devrait faire, Dieu nous dit, c'est par là. Et non, on ne veut pas le faire. On refuse après d'y penser, on le met dans un coin de son esprit et on fait comme si on n'a pas entendu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on n'est plus un outil malléable, obéissant entre les mains du Seigneur. Et on perd cette communion, cette belle communion avec le Seigneur. Et la vie continue. Et ça n'empêche pas de continuer dans sa vie de tous les jours. Ça n'empêche pas de continuer même à prier. On peut même lire sa Bible, hein. On peut même lire sa Bible. Dieu prend soin de nous. Il prend toujours soin de nous. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Lui, il ne nous abandonne jamais. Toujours fidèle. Toujours fidèle. Mais est-ce qu'on a perdu quelque chose en chemin? C'est ça la question. Est-ce qu'on a perdu quelque chose en chemin? Et parfois, il faut ce qu'on appelle un réveil. Pour prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On s'est éloigné du Seigneur. Et ce n'est pas que... On est forcément à des milliers de kilomètres, mais simplement, voilà, on a perdu cette vraie communion, cette transparence, cette liberté sans ombre avec le Seigneur. Quand vous entendez parler de réveil, en tout cas moi, chaque fois que j'ai entendu parler de réveil, on pense des milliers d'âmes qui se convertissent, plein de pécheurs qui viennent au Seigneur, etc. Et c'est vrai que souvent, eh bien, c'est le résultat d'un réveil. Mais en réalité, le réveil, quand vous lisez le réveil dans la Bible, c'est le réveil des chrétiens. C'est les chrétiens. C'est eux qui ont besoin d'être réveillés. Et le réveil, c'est une prise de conscience chez les chrétiens de leur besoin d'être plus près du Seigneur. J'ai besoin d'être plus près du Seigneur. Un besoin de plus de lumière, plus de pureté, plus de transparence. C'est une prise de conscience, j'ai perdu quelque chose. Regardez Éphésiens 5, versets 1 à 14. Éphésiens 5, versets 1 à 14. Éphésiens 5, 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. marcher comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Et le réveil, c'est un désir de lumière dans sa vie. On veut de la lumière. Un désir que la lumière manifeste, en fait, qu'elle révèle tout ce qui ne vient pas de Dieu et qui peut être en nous. Le réveil, c'est d'être de nouveau attiré vers la lumière et de vouloir qu'elle brille dans notre vie. Et un chrétien peut dormir, puisqu'il dit « réveille-toi ». Un chrétien peut dormir. Il dort, par exemple, dans sa vie avec Dieu. Il dort dans sa vie de prière. Il dort dans ses relations avec les autres. Il peut dormir dans son église. Il y en a qui dorment littéralement, parfois. Il peut dormir aussi en tant que témoin de Jésus-Christ. Hein ? On entendait, on parlait de témoignage ce matin. Parfois, on dort. En tant que témoin, on dort. Il y a encore des calendriers. Hein. Vous pouvez encore en donner. Hein. Qu'est-ce que c'est dormir ? C'est vivre une communion avec Dieu qui est altérée, qui est diminuée, qui est affaiblie. Paul dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marcher comme un enfant de lumière, c'est marcher à face découverte, devant Dieu, en pleine lumière. On n'est pas sous un arbre, non, en pleine lumière devant Dieu, sans rien cacher, en confessant mais tout ce qui est connu immédiatement, sincèrement, de tout notre cœur. Un bon test pour savoir si je marche dans la lumière, c'est de se demander si la vie que je vis à l'extérieur est la même que celle que je vis entre mes quatre murs. On se pose la question. Est-ce que ce que je vis à l'extérieur quand je quitte mon chez-moi est pareil que ce que je vis dans mes quatre murs? Est-ce qu'on est le même partout ou bien on est différent dans l'intimité? Menant alors une double vie, quoi, en quelque sorte. C'est comme une double vie. Je peux par exemple être très doux, très souriant à l'extérieur. Puis dans le cercle privé, je suis dur. Je peux être irréprochable à vue humaine à l'extérieur et faire des choses qui me sont reprochables quand on ne me voit pas, quand je suis tout seul. Ou là, eh bien, ça ne va pas. Je peux m'afficher avec la Bible sous le bras, mais ça fait un mois que je ne l'ai pas lue. Je la montre, mais en fait, elle n'est pas présente dans ma vie. Je peux dire « je prie pour toi ». Puis je prie pas pour. Ça nous est tous arrivé, hein. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans la lumière tout le temps, dans la lumière, dans l'intimité et dans la vie publique, devant Dieu et devant les hommes. Il est écrit « Réveille-toi et Christ t'éclairera ». Et à un moment, il faut se réveiller en fait. Il faut se réveiller. Se mettre au pied du Seigneur et dire « Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma relation avec toi ? Est-ce que j'ai perdu quelque chose en chemin ? Et je dors finalement. » Quand on fait cela, on permet à Christ de nous éclairer, de mettre en lumière ce qui ne va pas. Bien sûr, Dieu peut nous éclairer d'un coup s'il en a envie, hein. Mais il nous demande, nous, de faire une démarche aussi vers lui. Il nous dit, réveille-toi. C'est-à-dire, désire-le. Voilà, soupire après cela. Désire la lumière du jour. Désire sortir du sommeil. Et alors, je m'approcherai de toi et je vais t'éclairer. Et parfois, c'est nécessaire de faire une mise au point, un arrêt. On s'arrête. Et on fait une introspection, on réfléchit à sa vie. réfléchit à sa consécration. On réfléchit à sa relation avec les autres, à ce que l'on fait ou l'on ne fait pas. On réfléchit à ses habitudes de vie. Et on peut dire comme David. Regardez psaume 139, versets 23 et 24. Psaume 139, versets 23 et 24. Psaume. Merci, Victor. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu. Est-ce que nous sommes réveillés ou endormis? Est-ce qu'on est en communion parfaite ou on a perdu quelque chose? Sans pour autant être à 10 000 kilomètres, mais on a perdu quelque chose. Et c'est important de se remettre en question quelquefois parce que le curseur bouge, hein, vous savez, pour employer un terme courant, et on ne s'en aperçoit même pas. Ça m'est arrivé de me réveiller et me dire « mais en fait, tu pries plus ». Je vous rassure, ce n'est pas maintenant, merci Seigneur, que Dieu conserve ça. Mais à un moment, je me suis dit, mais en fait, tu ne pries plus. Enfin, je priais bien sûr, mais c'est 5 minutes. Hein, c'est plus prier, ou 10 minutes. C'est plus prier, ça. C'est plus demander des choses. Hein. C'est juste les prières d'usage. Mais on est tellement occupé, on fait des choses. On n'est pas en train de rien faire. Hein. On fait des choses. Donc du coup, on se dit, je suis actif. Mais quelle est ma relation avec Dieu? Où en est ma relation avec Dieu, ma communion avec lui? Parce que je peux être très actif et j'ai perdu quelque chose. J'ai perdu quelque chose en chemin. Bien sûr, Dieu est toujours là. Il ne nous quitte pas. Mais est-ce que moi, je suis toujours avec lui? Est-ce que moi, je suis proche de lui? Soumis à sa personne? Dépendant de sa personne? Et le roi David, puisque c'est lui qui écrit, eh bien, il savait aussi que parfois le curseur bouge. Et parfois, hop, il y a eu un glissement et on s'est éloigné. Et on n'est plus à côté de lui. Alors il dit, sonde-moi, ô Dieu. Vas-y, Seigneur, éprouve mon cœur. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et c'est une manière de se réveiller et de permettre à Dieu de nous éclairer. Et il faut de l'humilité. Il faut de l'humilité pour se remettre en question devant le Seigneur et lui dire, Seigneur, mais voilà... Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Parce que si je le fais, ça veut dire que j'accepte que Dieu me dise « tu te trompes ». Alors si je me trompe, je dois changer, je dois me repentir, je dois... Donc se mettre devant lui et dire « Seigneur, où j'en suis avec toi ? Où j'en suis avec toi ?» Reconnaître ses torts, ses erreurs. Ça c'est le signe d'une bonne santé spirituelle. Et puis ensuite, si on reprend 1 Jean, verset 7, 1 Jean 1 et verset 7, il dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Voilà, si nous marchons dans la lumière, ce que Dieu attend de nous, c'est l'honnêteté, être honnête avec lui, être transparent, avec simplicité, avec vérité. Marcher dans la lumière, c'est rien cacher. Voilà, tout m'éclaire. Hein. Quand vous mettez un spot très fort, vous voyez tout, quoi. Hein, si c'est dans la pénombre, des fois, il y a des personnes qui sont qui ont déjà réalisé que parce que leur vue baissait, ils ne voyaient plus vraiment les choses. Et puis par la grâce de Dieu, Dieu leur permet une opération ou quelque chose. Et puis d'un seul coup, ils retrouvent la vue. Et puis ils voient plein de petites choses qu'ils n'avaient pas vues. C'est pareil. Hein. Dans la vie chrétienne, la vue, parfois, elle peut baisser. Et puis on ne voit plus les petites choses. La poussière dans les coins. Et il faut que Dieu nous rende la vue. Tout dira au Seigneur. Je n'aime pas quelqu'un. Je lui dis. Seigneur, j'ai du mal à l'aimer. Je manque d'amour. Seigneur, aide-moi. Donne-moi de l'amour pour cette personne. Parce que je n'y arrive pas. Aide-moi. Je ne veux pas marcher dans les ténèbres et garder mon amertume ou ma haine déguisée. Non, je te dis, Seigneur, je veux être dans la lumière. Donne-moi de l'amour et pitié de moi. Je ne supporte pas quelqu'un, mais pareil. Seigneur, aide-moi. Supportez-vous les uns les autres, tu dis. Donne-moi la capacité. J'ai de l'amertume pour quelque chose, je lui dis. Je suis découragé, je lui dis. Je suis irrité, pardon Seigneur, pardon. J'ai des mauvaises pensées, je lui dis. Donne-moi des pensées vraies, honorables, pures, justes, aimables, méritant l'approbation, vertueuses, dignes de louange, s'il te plaît Seigneur. Marcher dans la lumière, c'est être devant lui à chaque instant de la journée. Dieu dit « Priez sans cesse ». Donc c'est ça, c'est, je maintiens un contact direct avec lui tout le temps, à chaque instant. Pas une ombre entre moi et lui. Marcher comme des enfants de lumière. Marcher dans la vérité. Ça veut dire je ne me cache pas, j'expose les faits, je ne trompe pas et je dis voilà, tel que je suis, sans rien à moi, tel que je suis, je viens. Voilà, je suis comme ça, Seigneur, aie pitié de moi. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et cette communion mutuelle, c'est à la fois la communion avec Dieu, et puis c'est la communion avec mes frères et sœurs. C'est dans les deux sens, c'est horizontal et vertical. Et les deux vont toujours de pair. On ne peut pas dire j'ai une communion verticale avec Dieu, mais je n'ai pas une communion avec ce frère ou avec cette sœur. Ça, c'est pas possible. Dieu dit, si tu dis que c'est pas possible et tu n'essayes pas, alors tu n'as pas de communion avec moi. Voilà. La communion, elle se coupe là, parce que tu ne veux pas avoir une communion là. C'est important. Seigneur nous le dit, un peu plus loin dans l'Épître, il dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ah, mais moi, je l'aime. C'est pas que je le hais, mais je l'aime pas trop, quoi. Dieu dit, c'est ça, c'est la racine de la haine en fait. Donc, pas le choix, pas le choix. Une communion uniquement verticale, c'est impossible. Et on voit qu'on peut là encore se tromper soi-même et ne plus être dans le vrai. On n'est plus dans la vérité. On pense qu'on est en communion avec Dieu alors que c'est un leurre. Parce que le fait que ma communion avec mon frère ou ma soeur ne va pas, en fait, ça ne va pas en haut aussi. Mais si on est en communion avec le Seigneur, confessant nos péchés, alors Dieu nous donne aussi d'aimer nos frères et sœurs. Il y a un autre verset qui le dit, je crois, dans 1 Jean. Quand nous aimons Dieu, alors nous aimons aussi les frères et sœurs. C'est une réalité. C'est une réalité. Et dans la lumière, eh bien, on est mutuellement tous en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand on vient à Jésus pour la première fois, on arrive avec notre sac, notre gros sac de notre vie de péché, et puis on comprend l'évangile, Jésus-Christ crucifié. On lui demande pardon, Seigneur, aie pitié de moi, sauve-moi, pardonne-moi. Et Dieu, il nous accorde un pardon global, général, il efface nos fautes. Voilà, le tableau noir, il efface tout. Il purifie nos cœurs de tout. Gracieusement. Mais une fois qu'on est enfant de Dieu, il nous est parlé de la purification de tous nos péchés. Mais c'est cette purification qui est quotidienne en fait. Et là, c'est plus la question de tout pardonner en gros, en bloc, mais Dieu nous demande de mettre le doigt dessus. Seigneur, j'ai pas bien agi là avec cette personne. Seigneur, j'aurais pas dû faire ça. Et vous savez, Dieu veut qu'on mette le doigt dessus pour qu'il nous purifie. Et il nous purifie de tout péché, mais de chaque péché, de tout ce que nous faisons. Être dans la lumière. Parfois, on tolère, on minimise des écarts, un peu de désobéissance, un peu d'infidélité, et on n'est plus dans la parfaite lumière. Comment on peut retrouver cette communion qui s'est altérée ? Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et on a besoin d'un franc retour vers le Seigneur. Voilà. Seigneur, je reviens. J'étais caché sous les arbres, je me précipite là, dans la plaine, en pleine lumière, et je dis tout. Je dis tout. Seigneur, sonde-moi, ô Dieu. Maintenant, David dit « sonde-moi, ô Dieu ». Il ne dit pas « Seigneur, je vais me sonder et après je vais venir te voir et te confesser mes péchés ». Ne vous sondez pas vous-même tout seul, parce que notre âme est un abîme, un puits sans fond. Et on peut tomber aussi dans une attitude, comment dire, mortifère, quoi. Non, sonde-moi, ô Dieu. Je me place devant lui et je dis « C'est à toi, Seigneur, aie pitié de moi ». Et lui, il va mettre le doigt là où ça ne va pas. Et on demande pardon. Et une fois que, voilà, on a tout confessé, on retrouve la joie. On retrouve la paix. Et puis on avance. On avance. Sonde-moi, ô Dieu. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, disait David. Regardez psaume 32, versets 5 et 6. Il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Comment le sang de Jésus peut-il purifier des péchés? On n'a pas forcément besoin de tout comprendre intellectuellement pour être purifié. Dieu dit, croyez-le, croyez en Jésus-Christ. Il a versé son sang pour vous purifier de tout péché. Si on le croit, eh bien, on est purifié, on est sauvé de tout péché. Maintenant, la vie est dans le sang. La Bible dit que la vie est dans le sang. Et quelqu'un qui perd son sang, ben, il s'affaiblit et puis il meurt, hein. S'il n'y a plus de sang, eh bien il n'y a plus de vie. Sa vie s'arrête. Or Dieu a dit que l'homme paierait la dette de son péché par sa vie. Par sa vie. Il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Si nous péchons, un péché, ça suffit pour que nous mourions. Et donc le péché est une dette devant Dieu. Le pécheur est coupable. Il doit être jugé. La condamnation, c'est la perte de sa vie. C'est la mort. Mais Jésus, lui, a versé son sang. Il a donné sa vie, justement pour pouvoir nous pardonner. Pour que le jugement soit jugé sur lui et que nous, eh bien, nous soyons pardonnés, innocentés, purifiés. Et le chrétien qui marche dans la lumière et donc qui confesse chacun de ses péchés quand il en a conscience, il est couvert par le sang de Christ. Il est couvert par la vie de Christ. Et c'est ça qui permet d'avoir une communion avec un Dieu qui est saint, qui est pur, qui est parfait. C'est qu'on est caché, couvert par ce sang précieux qui nous purifie. 1 Jean 1,9, juste après. Vous connaissez pour la plupart ce verset par cœur. Hein, mais c'est toujours bien de se le remettre devant les yeux. Et si vous ne le connaissez pas par cœur, et bien je vous encourage à l'apprendre par cœur. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Il dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Moïse a dit « Fais-moi voir ta face. Fais-moi voir ta face. » Mais on ne peut pas voir Dieu, ou plutôt on ne peut voir Dieu que quand on est dans la lumière. Si on est dans la lumière, ben oui, on voit Dieu. On a une communion avec lui. On est purifié par son sang. Mais on ne peut pas voir Dieu si on est dans les ténèbres, si on est caché. C'est comme si vous regardez le soleil. Hein. On peut voir le soleil que quand on est au soleil. Si vous allez dans un bâtiment, ben vous ne voyez plus le soleil. C'est normal. Hein. Eh bien, c'est pareil pour Dieu. Adam et Ève n'ont pas voulu voir Dieu. Ils sont allés se cacher sous les arbres du jardin. Dieu les voyait, mais eux, ils se cachaient de Dieu. Alors, ils ont entendu sa voix. Ils ont eu peur. Et il fallait qu'ils sortent et qu'ils viennent devant le Seigneur. Et voilà, Seigneur, aie pitié de nous. C'est quand on vient à la lumière qu'on voit la lumière. Et c'est la même chose pour nous. Si on veut voir Dieu dans notre vie, il faut se réveiller. Et Christ nous éclairera. Et alors, nous confesserons et nous serons purifiés par son sang. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Et tu pourras retrouver une marche fidèle et marcher avec le Seigneur de tout ton cœur. On va avoir un moment de prière. Que chacun, peut-être on peut avoir, qu'on n'ait pas peur du silence. 2-3 minutes de silence. Et si on veut commencer par dire des choses au Seigneur, qu'on puisse lui dire. Et puis après, qu'on puisse le remercier et le louer si on en a envie. Donc si on peut avoir 2-3 minutes de silence.